Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Alors Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille, vous avez été l'avocat de Jamila Belkacem, si j'ai bien compris d'ailleurs, vous l'avez été, puis vous ne l'avez plus été, puis vous l'avez été à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pressens la réponse, ça ne doit pas être une cliente facile.
C'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un cas qui aurait fasciné Lacan. S'il avait été encore là. Hein.
Le maître de la psychanalyse.
Le maître de la psychanalyse qui s'est intéressé quand même, ne l'oublions pas, il faut le rappeler constamment, à la criminologie. C'est un des rares psychanalystes qui se soit penché à travers le cas des sœurs Papin sur le mécanisme du passage à l'acte. Hein. Moi, je répète qu'il y a deux moyens de connaître l'être humain. Hein. C'est par le crime et par la sainteté. Hein. Bon. Et là, on est dans les profondeurs les plus hallucinantes de la mythomanie criminelle. Les criminels les plus redoutables que j'ai rencontrés dans ma vie, et Dieu sait que j'en ai rencontré, hein. J'ai vraiment une mémoire du crime qui est incroyable, hein. Ce sont les mythomanes. Méfiez-vous des mythomanes, même des petits mythomanes, ils peuvent engendrer des choses terribles parce qu'ils ont deux réalités, et Madame Belkacem le montre bien, hein. Une réalité dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils croient, et une réalité qu'ils projettent. Et à laquelle il croit, mais qui est une réalité inventée, une réalité fantasmée, mais aux conséquences mortifères et réelles. Elle vivait dans deux mondes parallèles.
On va revenir sur sa mythomanie tout à l'heure. Je voudrais qu'on en reste à votre rapport à elle en tant qu'avocat. Si à un moment donné, vous la lâchez ou elle vous lâche, en fait, je ne sais pas qui lâche l'autre, et puis finalement, il y a une sorte de réconciliation, c'est parce qu'elle ne vous prévient de rien de ce qu'elle va dire au procès.
Et voilà, c'est ça. Le problème est là. Le problème est là. Le problème est là. Enfin, m'aurait-elle prévenu que je me serais déchargé de son affaire, hein ? Bien évidemment. Hein.
Mais elle ne vous prévient pas. Quand elle accuse René en ouverture du premier procès, elle ne vous prévient pas.
Ah ben absolument pas. Absolument pas. C'est là où je dis qu'il y a deux univers qui se côtoient et qui sont immaîtrisables. Quoi. Il y a l'univers du réel qui est affecté par plein de signifiants, hein, qu'on découvre tout au long du procès, qui jalonne du reste l'histoire du crime. Les petites annonces, les lettres anonymes, l'accusation de l'autre, enfin, il y a plein de signifiants criminalistiques que l'on retrouve dans toutes les affaires. Et à côté, il y a une réalité complètement fantasmée. Je suis persuadé qu'elle croit encore qu'elle n'a pas tué, dans la dimension fantasmatique, hein.
Ouais,
c'est-à-dire... Et quelle manipulatrice, surtout quelle manipulatrice, voilà, c'est ça, qui est extraordinaire, quoi.
On va revenir sur tout ça, juste avant la pause, Gilbert Collard, une petite question qui peut paraître étrange, mais est-ce que cette femme est sympathique? Parce que on peut être monstrueux,
oui, tout à fait. Je vais vous faire peur, je vais vous faire très peur. Elle est très sympathique. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas sympathique, c'est qu'il est très sympathique.
Et elle est très sympathique.
Et elle était très, très aimable, très sympathique, très charmeuse.
Oui.
Voilà, mais je n'ai jamais vu, du reste, dans ma carrière, un escroc qui n'était pas aimable.
Hein. Vous avez, Gilbert, évoqué tout à l'heure, de manière assez furtive, sa mythomanie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est une mythomanie, à votre avis, au sens maladif, ou bien est-ce que c'est une mythomanie stratégique ? Parce qu'on voit qu'elle ment aussi pour des raisons stratégiques, pour gérer les relations entre son ex-mari avec lequel elle vit toujours, et puis son amant, dont elle ne veut pas que son ex-mari sache que c'est son amant.
Mais la mythomanie est toujours stratégique par rapport aux incohérences de la propre vie du mythomane. Le mythomane a besoin de mentir pour adapter sa vie telle qu'il ne la veut pas à la stratégie de sa vie telle qu'il l'imagine. Et là, on a constamment des actes de mythomanie destinés à adapter finalement les deux vies, hein, les deux existences.
Ouais.
Elle tue, elle fait accuser son mari, elle manipule sa fille qui envoie une lettre, tout ça du reste dans une stratégie qui repose sur un orgueil monumental, parce que elle est capable de faire de sa fille une complice.
Eh oui.
C'est quand même assez ahurissant. Elle commet un parricide par personne interposée.
Mais quand elle dit par exemple qu'elle est infirmière alors qu'elle n'est qu'aide-soignante, à votre avis, elle finit par croire elle-même qu'elle est infirmière ?
Mais elle croit qu'elle est infirmière, bien sûr. Mais le mythomane croit à ses inventions, bien sûr. Bien sûr. Elle a besoin, pour vivre, d'être infirmière et non pas être soignante. C'est ce terrible, cette vacuité, si vous voulez, entre ce qu'elle est et l'idée qu'elle se fait de ce qu'elle voudrait être, c'est cette vacuité qui est criminogène. C'est à l'intérieur de cette vacuité que tout peut arriver.
Alors, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'intéresse, c'est que elle commet le crime avec une énorme naïveté, ou bien avec beaucoup de bêtises, parce que elle aurait dû anticiper le fait qu'en mettant de l'essence, forcément, à un moment donné, on allait retrouver de l'essence, etc., etc., qu'à se faire appeler Maillard, on finirait par découvrir qu'elle s'appelle Belkacem. C'est de la naïveté ou c'est de la sottise?
Ah, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. On peut être criminel et bête, hein.
Oui.
Et du reste, il y a très peu de criminels très intelligent, hein. C'est de la bêtise lourde, mais qui est portée par une incroyable prétention.
Oui.
Elle est persuadée qu'elle bernera tout le monde.
Et qu'elle arrivera.
C'est ça que je veux voir.
Qu'elle arrivera à ses fins.
Ah oui, elle est persuadée qu'elle arrivera à ses fins. Elle est persuadée qu'elle manipulera sa fille. Elle est persuadée qu'on la croira, comme quand elle dit qu'elle est infirmière, quoi. C'est ce qui est fascinant, si vous voulez. J'en ai rencontré beaucoup de criminels de ce type, hein. Bon, pas de cette envergure, bien sûr, hein. Mais c'est leur capacité à croire au monde qu'ils inventent, hein.
Parce que quand même, quand elle dit aux policiers qu'elle s'appelle Myriam Maillard, elle peut quand même imaginer qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'elle s'appelle pas Myriam Maillard.
Mais elle peut pas l'imaginer parce qu'elle est prisonnière de cette dualité. C'est, en même temps, ça doit être quelque part épuisant sur le plan psychique. Elle est elle et un autre.
Mmh.
Elle est elle et un autre. Bien sûr, la responsable de tout, c'est elle. Mais elle est un autre objet. Elle est un autre objet qu'elle manipule. Elle est l'objet infirmière, alors qu'elle n'est qu'aide-soignante.
Ouais. Alors, j'ai toujours pas compris, moi, parce que je suis un type rationnel, pourquoi, alors qu'elle était divorcée de René Maillard, elle se croyait obligée d'inventer des choses au sujet de Jacques Brunner, genre c'était un collègue, genre il avait une tumeur au cerveau, etc.
Mais la mythomanie, mais c'est ça.
Uniquement.
Il y a des études extraordinaires, il y en a de très banales, hein, mais sur la mythomanie, il y a plein de petits mythomanes, bon, il y a des petits inventeurs de vie, il y a les mythomanes gentils, quoi, hein, bon, et puis il y a le mythomane qui est complètement obligé pour rééquilibrer sa vie d'inventer, c'est une névrose, hein, grave. Mmh.
Donc, quand elle tue Jacques Brunet, ça n'est pas tant pour lui piquer son pognon que pour faire vivre cette vie mythomaniaque.
Mais oui, mais les mythomanes tuent pour qu'on ne découvre pas leur mythomanie.
Mmh.
Il n'y a rien de... Encore une fois, si je peux me permettre de donner un avis, ne fréquentez pas des mythomanes.
Ouais.
Non, surtout pas, attention. Le mythomane peut tout... Le mythomane peut même devenir un accusateur.
Mais est-ce que c'est une maladie, Gilbert, ça, la mythomanie? Oui.
Ah,
psychique.
Oui. Ah oui. En tout cas, dans l'histoire criminelle, elle est présente tout le temps. C'est une vraie névrose. C'est une vraie névrose. Oui.
Mais ça ne se plaide pas, ça. Ça ne se plaide pas.
Oui, ça se plaide. Mais elle aurait pu s'en tirer si elle n'avait pas eu l'histoire de la lettre. Et vous comprenez, à partir du moment où elle espère posséder la justice, parce que finalement, son objectif final, c'est de manipuler la justice.
Ouais.
Le rêve du mythomane, quoi. Elle est plus forte que la justice. Elle a réussi à la tromper. À partir du moment où elle tente de tromper la justice et où sa manœuvre s'effondre et où elle manipule sa propre fille dans un parricide symbolique, hein, dans un mensonge, là encore, la lettre, hein, quand même. Hein, il y a toujours cette histoire de lettres, moi, qui me préoccupe. Hein.
Ouais.
Le côté anonyme, les lettres, tout ça revient, quoi. Il est évident qu'aucun juré, aucun magistrat ne peut faire de cadeau. Là, on a affaire à un personnage criminel qui est hors du commun. Hein.
Alors, j'ai insisté sur un point. Elle est donc condamnée à 20 ans en première instance. Là, vous êtes son avocat à ce moment-là. Et je suppose que vous lui conseillez d'arrêter là, de ne pas faire appel.
Bien sûr.
C'est miraculeux, 20 ans.
Mais je ne m'y attendais pas du tout, bien évidemment, mais si elle n'avait pas été mythomane, elle n'aurait pas fait appel. Mais comme elle est mythomane, mais pas au sens psychiatrique du terme, si vous voulez, qui aurait permis de dire qu'il y avait une abolition du discernement, bon, comme elle est mythomane, elle s'invente elle a besoin de faire appel pour que cet acte d'appel conforte l'idée qu'elle est innocente.
Et d'ailleurs, on voit qu'elle fait appel aussi de sa condamnation à perpétuité pour la tentative de meurtre sur René Maillard. C'est-à-dire que c'est...
Complètement.
C'est pathologique chez elle.
C'est pathologique, voilà. Il faut qu'on la croie innocente.
Dans le top 3 de vos clients, elle a quelle place?
Ah, j'ai connu pire. Honnêtement, j'ai connu pire. J'ai connu pire. Elle est bien placée,
ouais.
Mais j'ai connu, il y a deux ou trois histoires qui m'ont...
Allez, laquelle de top 1
qui m'ont dérouté sur... j'ai le temps ou pas, là?
Allez-y, vous avez tout le temps.
C'est un individu qui, apprenant que sa femme a un amant, le tue, à la nuit tombée, va l'enterrer,
ouais.
Et puis... 4, 5, 6 jours après, va le déterrer pour le briser à coups de masse,
ouais.
Le réenterrer. Évidemment, ce jour-là, il pleuvait. Et le 20 décembre, je reçois un courrier de lui me demandant pour les fêtes de Noël de lui envoyer un rapport d'autopsie.
D'accord.
Voilà.
Merci Gilbert Collard.
Ça s'arrête tout, hein.
Ouais. Merci infiniment Gilbert Collard d'avoir accepté de revenir sur cette histoire passionnante, déroutante et aussi pas facile à raconter.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.